Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Béliveau aux rencontres en ce mercredi 7 juin 2023, 20 h. Ce soir, exceptionnellement, vous le constatez, c'est pas Jean-Luc Doumont qui anime la soirée parce qu'il est notre invité. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir Annabelle, tu vas bien?
Très bien.
Merci pour l'invitation.
Ça fait extrêmement plaisir.
Ça me fait drôle de me voir dans l'autre cadre.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, évidemment, mon nom est Annabelle Boyer. Je suis coach en neurosciences, conseillère en ressources humaines et je suis l'éditrice adjointe chez Béliveau Éditeur. Et pour nos auditeurs, je vous rappelle qu'on est diffusé en direct en ce moment sur YouTube, Facebook et sur Twitter, sur les comptes de Jean-Luc, sur les miens, mais aussi évidemment sur ceux de Béliveau Éditeur. Et ce soir, comme je vous le disais, on reçoit Jean-Luc et d'ailleurs, ça me fait penser que si jamais vous n'êtes pas en direct, demain, vous pourrez nous écouter sur podcast. Vous pourrez nous écouter, entre autres, sur Spotify, Audible, Balado Québec, iHeart Radio. Ça, c'est entre autres Énergie et Rouge. Vous pourrez nous écouter aussi sur Apple Podcast, Amazon Music et Google Podcast. Et donc, vas-y, il y en manque un?
Et Audible.
Audible, c'est le premier que j'ai dit.
OK.
Donc,
excusez,
ce soir, comme je vous le disais, on reçoit Jean-Luc Doumont, auteur du livre « Pour un instant ». Il a écrit, ah oui, là, évidemment, je suis à moitié de l'écran. Il a écrit, évidemment, plusieurs autres livres qui sont des best-sellers internationaux parce qu'il faut le dire, Jean-Luc Doumont, c'est tout un phénomène. Il fallait voir la file de lecteurs qui l'attendaient au Salon du livre de Québec, puis vous devriez voir la quantité phénoménale de photos d'admirateurs qu'il reçoit. C'est vraiment un phénomène. Alors, mon cher Jean-Luc, pour les gens qui t'entendent animer les soirées Béliveau Rencontres, mais qui peut-être ne te connaissent pas encore tout à fait comme auteur, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous décrives un peu qui tu es.
Bon, ben, Jean-Luc Doumont, auteur de thriller au début. Puis, j'en ai écrit quatre thrillers en 2 ans et demi à peu près. Puis après, ça a été mon roman historique. Puis j'ai eu la chance que ces romans, ces thrillers, soient très lus avec des best-sellers. Puis c'est vraiment les plus beaux cadeaux qu'on peut avoir dans la vie d'un écrivain. C'est d'avoir cette reconnaissance et ces photos aussi. Moi, j'ai demandé au tout début, quand j'ai écrit le « S'enfuir et après », envoyez-moi une photo d'où ce que vous lisez le roman. Moi, je m'attendais d'avoir des tables de commode, des tables de nuit et tout ça. J'en ai reçu aucune. Mais les gens se sont pris en selfie avec les photos. Puis j'en ai reçu genre 300 photos en un mois et demi. C'est devenu des ambassadeurs. Puis merci, c'est grâce à eux. C'est pour ça que j'ai un profond respect pour les lecteurs, les lectrices. Puis je pense qu'on a une belle chimie ensemble, puis que et qui vient de me parler dans les restaurants et tout ça, c'est incroyable.
C'est phénoménal. Dis-moi, Jean-Luc, ce roman-là, ce n'est pas un trailer, c'est complètement autre chose. En fait, j'aimerais que tu nous dises d'où te vient l'inspiration de Pour un instant.
C'est un roman qui n'était pas prévu du tout d'être écrit. Moi, j'écrivais, d'ailleurs, il est là en arrière. Le 4e tome de Clark et Clara.
Oui.
Et il y a une amie qui était à Montréal, qui déménageait, et elle me dit un matin, est-ce que ça t'intéresse l'intégrale de Charles de Gaulle en 17 volumes, édition numérotée, je te l'offre. Moi, je dis oui. Elle descend à Allemagne, parce que sa mère habite en face de chez moi. Elle me les apporte, et c'est avec... C'est complètement numéroté. Il y a 1500 exemplaires au monde. C'est édition plomb. Il y a un écusson dessus sur le livre. Il y a 17 volumes comme ça. Ils sont magnifiques. Et je commence à les consulter. Et je suis un homme qui ne rêve pas. Donc, tu peux pas... Tu pourras m'analyser si tu veux. Mais je ne peux pas te dire cette nuit, j'ai rêvé à telle chose. Je m'en souviens pas. Et là, cette nuit-là, 2 nuits après, j'ai rêvé à ma mère où elle me dit, raconte mon histoire, s'il te plaît, raconte-la. Et là, je me suis dit, OK, pourquoi j'ai rêvé à ma mère? Et cette phrase continue dans ma tête. Raconte mon histoire, c'est quelle histoire. Et deux jours après, je suis dans ma remise en arrière, dans un endroit où je ne vais jamais, pour aller chercher un outil. Et je tombe sur une boîte qui a à peu près une trentaine d'années. Et je retrouve des cahiers que j'avais écrits quand j'avais 15 ans.
Oh my God! Elle
me racontait la Seconde Guerre mondiale. Et je commence à consulter ça. Et je me suis dit, mince, j'ai une histoire. Et là, ça a fait tilt. Je n'avais pas abandonné, j'ai mis de côté le tome 4. Mm-hmm. Donc là, j'ai commencé mes post-it. Est-ce que j'ai une histoire qui tient la route, tout? En deux semaines, j'avais 40 post-it à peu près, donc 40 chapitres. Ça a été réécrit dans un cahier. Puis là, je me suis dit, OK, je passe à l'écriture. Deux mois et demi après, le roman était complet. Il était complètement... Puis je l'ai envoyé à Béliveau. Avec aucune intention. Je vais te dire, quand je l'ai envoyé, je me suis dit, bon, voilà, c'est le roman. Mais il venait me chercher ce roman-là, mais je me suis dit, qui va s'attacher à ma mère, en plus, qui a un caractère phénoménal. C'était tout qu'un phénomène, tout qu'un personnage. Et, en plus, c'est une histoire personnelle. Donc, je me suis dit, qui va s'attacher à ça? Puis, quand je vois les réponses aujourd'hui, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable.
C'est incroyable. Et même si ce n'est pas un trailer, on voit l'auteur en toi qui est habitué de monter une intrigue parce que quand on le lit, on a juste hâte de voir comment le personnage va réussir à se sortir d'une situation. On a des dénouements, des conclusions auxquelles on ne s'attend pas. Je pense, entre autres, à la façon, parce qu'il faut comprendre évidemment que l'histoire de ta mère est racontée alors qu'elle est enfant. Donc, on oui. suit une petite fille de 8 ans et on suit sa propre mère, ta grand-mère, qui a tout un caractère, soit dit en passant.
Ni belge, ni italienne. Donc, ça donne un caractère flamboyant. Christina oui. était flamboyante.
Et pour les gens qui rêvent d'un livre où on a comme personnage principal une femme de caractère, il faut vraiment lire ça parce que c'est exactement là-dedans qu'on se retrouve, mais on se retrouve plongé dans quelque chose qui est très particulier parce que souvent dans les films de la Deuxième Guerre mondiale ou dans les livres de la Deuxième Guerre mondiale, on plonge évidemment dans l'histoire qui a touché directement les Juifs. Mais là, on se retrouve en Belgique.
Oui.
On entend souvent parler de ce qui s'est passé, évidemment, en Allemagne, de ce qui s'est passé en France, de ce qui s'est passé au Japon, évidemment. Mais là, on est en Belgique et on est dans un village qui se fait envahir, mais totalement par les Allemands. Et on a ta grand-mère qui tient une épicerie. Oui. Et évidemment, elle va devoir côtoyer les Allemands qui ne se gênent pas d'ailleurs pour lui rendre visite et ne pas payer les factures. Mais elle va leur tenir tête. Et on a sa petite fille de 8 ans, donc ta mère, qui va faire du troc.
Oui. Ben, tu sais, à l'époque, ça, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup parlé, c'était du troc. Puis ma mère me l'a toujours raconté de la façon que je l'ai mis dans le roman. Fallait survivre.
Oui.
C'était pas genre, ah ben c'est inhumain, oh j'aurais pas fait ça. Aujourd'hui, ce qu'elle a vécu, ma mère, lorsqu'elle avait 8 ans, 9 ans, 10 ans, demander ça à une jeune femme, à une jeune fille, c'est impossible. On fait pendant deux mois la une du journal de Montréal.
Oui, parce qu'il faut comprendre que l'enfant de 8 ans va à chaque fois devoir traverser des barrages, rencontrer des soldats nazis, réussir à les convaincre de la laisser passer. Ça a dû lui demander un courage immense, incroyable.
Puis, tu sais... en plus du troc, du café contre des saucissons et tout ça. Donc, ça a été beaucoup de troc, mais pour eux, c'était, fallait survivre.
Oui.
C'était le mot de survie. C'était, on fait ça ou on meurt. Donc, en plus, ma grand-mère, Christina, oui, elle avait une épicerie, mais c'était une des premières femmes entrepreneurs en Belgique parce qu'elle était négociante. Donc, c'est elle qui gérait tous les prix pour les autres épiceries à travers la Belgique. Puis, où ce qu'ils habitaient, c'était la rue de Wattler-Mouscron. Et une rue et demie après, c'était la frontière avec la France. Donc, il y avait le fameux ruisseau qui passait comme frontière. Et quand quelqu'un ne voulait pas se faire tirer par les Allemands, ils allaient dans ce ruisseau-là parce que c'était un endroit qui était neutre. Donc, ils étaient ni en Belgique, ni en France. Ils étaient neutres, ils ne pouvaient pas tirer. Mais il y a des Allemands qui tiraient quand même, qui outrepassaient ça. Puis, elle a vu ma mère à 9 ans, ses voisins se faire assassiner, tirer des balles dans la tête. Elle a vu tout ça. Puis, elle n'a jamais gardé une rancœur. Je pense que c'est un livre aussi de résilience. Je pense que c'est ça aussi qui ressort du livre. C'était sa résilience. Elle aurait pu avoir, même si elle a gardé des séquelles physiques jusqu'à la fin de sa vie, elle a jamais vécu avec de la rancœur en elle. Elle racontait pour que ça soit comme ça, pour que je sache l'histoire et tout ça. Mais il y avait beaucoup de résilience en elle.
Et c'est fascinant de voir comment de découvrir comment les gens vivent une vraie vie à travers une guerre qui perdure et qui n'en termine plus. Et inévitablement, on fait le lien avec l'Ukraine en ce moment, avec les gens qui, là-bas, sont dans une situation de guerre et doivent vivre avec des bombardements, doivent vivre avec des soldats qui pensent. Et c'est très intéressant de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Parce qu'on a toutes sortes de réactions face aux Allemands aussi. Et ça, c'est intéressant de découvrir que finalement, à un moment donné, Christina va découvrir que dans le village, évidemment, il y a des voisines qui ont compatisé avec certains Allemands.
Oui, qui donnait de l'info, de l'information sur les gens qui se cachaient dans les maisons et tout ça, puis qui renseignait les Allemands, puis qu'à la fin de la guerre, on les a tondus sur la place publique parce que c'était des traîtres. Ça, il y en avait, puis ils traînaient les femmes à travers le village, à travers la ville, pour montrer qu'ils étaient des traîtres, puis ils les ont rasés. Pour montrer ça, ça l'a vécu. Puis tout ce que je raconte à 90% est vrai. Le 10% que j'ai inventé, c'est au niveau de l'ambiance. Donc c'est pour que ça soit plus littéraire. Mais tous les faits que je raconte ont été vécus par mes parents, par ma mère. Donc c'est tout ce qu'elle m'a raconté. Puis au début, quand elle me le racontait, il y avait déjà le côté journaliste en moi. Et je me disais, hey, c'est gros quand même ce qu'elle me raconte. Puis j'ai connu Edith, sa meilleure amie, jusqu'à la fin de sa vie. Puis des fois, j'allais voir Edith, parce que comme je le raconte dans le livre, elle retournait à Mouscron comme un pèlerinage et elle allait souvent là, puis elle repassait devant sa maison et tout ça. Et je demandais à Edith, c'est-tu vrai, telle chose. Elle dit, oui. Puis là, elle me rajoutait des choses. Puis ma mère faisait, ben oui, j'ai oublié de te raconter. Puis là, j'avais un autre bout du puzzle qui se rajoutait. Puis là, je me retrouvais avec des histoires incroyables. Puis je me disais comment ces deux femmes-là ont réussi des choses. Puis aujourd'hui, ils sont encore les meilleurs amis du monde. Ils s'aiment, ils se téléphonent. Ils sont là l'une pour l'autre, ça les a soudés incroyablement. Ma mère, quand elle est décédée, Edith a fait 250 km pour venir à ses funérailles. Puis elle est repartie après. C'était pour elle, c'était normal. Puis après, bon, faut pas oublier deux personnes qui sont importantes aussi dans le livre, c'est ses frères. Qui étaient aussi des phénomènes.
Oui, et qui résistait aussi à l'invasion
Oui, il y a Georges. Oui, il y a Georges qui a vécu à la cave pendant 2 ans à peu près, parce que lui est amoureux d'une Russe et qu'à l'époque, être amoureux d'une Russe pour les Allemands, c'était de la traîtrise. Donc, si on les retrouvait, ils étaient fusillés sur le champ. Donc, à un moment donné, ils ont parti en pleine nuit, Blankenberg. Puis après, ils sont passés dans le sud de la France. Puis, Georges, jusqu'à la fin de sa vie, a vécu, il avait un appartement à Blankenberg. Là où il s'est évadé, il a toujours un lien très, très fort avec Blankenberg. Arthur, je l'ai connu aussi très bien. C'était un dragueur italien à la plus pure tradition. Quand il venait à la maison, il fallait que je le suive parce qu'il allait draguer toutes les voisines. Donc, c'était planquez-vous, il arrive. C'était tout qu'un Arthur. Mais c'était des caractères comme ça, des caractères pour faire la fête et tout ça, mais il n'y a jamais eu une once de méchanceté. Jamais.
Et c'est ça qui est particulier dans ton roman, c'est que même si on est en situation de guerre, même s'il y a des scènes qui sont horrifiques, il y a ce côté-là humain, ce côté-là joyeux et des petites anecdotes. Je pense entre autres quand ta mère, à un moment donné, se cache dans l'escalier pour écouter une conversation. Quel enfant n'a pas déjà fait ça? Se descendre en catimini pour entendre ce que les adultes se disent. Savoir que les adultes parlent de choses sérieuses mais ne veulent pas en parler aux enfants. Il y a plein de petites anecdotes comme ça qui font qu'on s'identifie au personnage de ta mère.
Oui, puis c'était toutes des choses qu'elle faisait parce qu'elle se disait, ma mère, elle doit faire partie de la résistance. Donc, elle me cache des choses parce qu'à l'époque, dire qu'on fait partie de la résistance, c'était pas bien vu parce que si les Allemands les retrouvaient, ils étaient
les armées assurées.
C'est ça. Donc, elle se disait, il me cache des choses. Et ma mère a toujours eu un don comme ça pour me dire, tu me caches des choses. Puis elle le savait. C'est moi avec ma mère, on se parlait très peu. Tout se passait dans le regard. Je savais à peu près à 50% ce qu'elle voulait, rien qu'en la regardant, ses yeux parlaient beaucoup. Ça, c'est un truc italien, je pense. Ses yeux parlaient, puis il y avait une chimie entre nous qui était complètement incroyable. Puis moi, je suis très content d'avoir laissé une trace comme ça de ma mère. Puis même si aujourd'hui, en rencontrant les lectrices et les lecteurs, ils me demandent, est-ce qu'elle va revenir? C'était pas prévu qu'elle revienne. Mais il faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais. Il y en a encore pour à peu près une dizaine de livres avec tout ce que j'ai vécu. Donc, on va voir.
D'ailleurs, ça me fait penser, on a Lolita Leblanc qui avait une petite question que je trouve très intéressante. Elle nous demande de te demander comment est née ta passion pour les enquêtes et le journalisme qui fait qu'aujourd'hui, tu es un très grand auteur. Parce que c'est vraiment, on sent le travail journalistique, on sent la recherche dans ton livre. C'est documenté et c'est bien fait, c'est réaliste. Donc, on sent que ça a été bien travaillé. Mais c'est ficelé d'une main de maître. On ne peut pas lâcher le roman une fois qu'on le commence. Donc, moi, je m'étais dit, je vais en lire un petit bout, puis après ça, je lirai demain. On oublie ça, j'y ai passé la soirée. Donc, d'où est venue ta passion pour le journalisme et les enquêtes?
Les journalismes, c'est un peu comme beaucoup de choses dans ma vie, complètement au hasard. Moi, je faisais du machine-outil. Moi, j'ai appris à souder, à fraiser, à tout ça. Puis, est arrivé ce qui devait arriver, le premier amour dans sa vie. Puis elle partait en communication. Puis je me suis dit, je pars avec elle. Puis on est parti comme ça en communication. Puis à l'époque, j'étais un très grand timide. Très grand. T'sais, quelqu'un me parlait, puis j'allais me cacher, puis j'étais rouge. Là. C'était timide, maladif. Je pense que c'était comme ça, j'ai même été diagnostiqué. Timide, maladif. Puis, un des profs qui m'a dit, écoute, tu vas devoir aller en face des gens pour poser des questions et tout ça. Tu vas devoir aller... Puis là, il m'a fait sortir l'inverse. Ça a été en 6 mois, ça a été complètement l'inverse. J'ai été au devant des gens et tout ça. Puis, le journalisme a toujours fait partie de ma vie. Parce que j'aime les histoires policières. Moi, aller suivre des procès, tout ça, moi, j'ai toujours trippé là-dessus. suivre, par exemple, des accidents, malheureusement. Mais je couvrais des accidents, des incendies, tout ça. T'as l'adrénaline qui est complètement à 100 000 à l'heure. Puis avec l'écriture, je retrouve ça. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup ce style d'écriture. On va dire historique, thriller et tout ça, parce que ça amène des choses de mon métier.
Et on a Lolita Leblanc qui aimerait que tu nous racontes comment tu as rencontré ton idole étant enfant qui t'a donné le goût du
Oh!
journalisme.
Écoute, ça s'est passé à Moucron. J'avais 8 ans. C'est un monsieur qui s'appelle Georges Moucheron. Georges Moucheron, à l'époque, était le plus grand journaliste en Belgique. Puis, pour donner une idée, le journal télévisé qu'on appelait cela RTBF, c'est comme le Radio-Canada en Belgique, était suivi au début des années 1980 par 2,2 millions de personnes tous les jours, ce qui est énorme. C'est complètement fou. Et ma mère, on décide d'aller à Moucron. Et qu'est-ce que je vois? Georges Moucheron. Et j'ouvre le sac de ma mère, je prends un morceau de papier, un crayon et je m'en vais. Et là, je tire sur sa veste et je me dis, bon, au pire, il va me dire, excusez-moi le terme, casse-toi, petit con, j'ai pas besoin de te parler. Ben non. Il a pris le temps, il s'est accroupi et est venu me parler. Puis il me dit, tu veux faire quoi plus tard? Et je lui ai dit, je veux être vous. Puis il m'a dit, c'est le plus beau des métiers, fais-le. Puis ça m'est resté. Puis il m'a signé un papier que j'ai collé sur ma porte en Belgique avec ces mots-là. Puis ça m'est toujours resté. Ça a toujours été quelqu'un que j'ai toujours respecté, tout ça. Il y a un an et demi, on m'invite à une émission en Belgique à la radio, la RTBF, les Belges du bout du monde. Et on prépare l'entrevue avant, puis il me dit, t'as-tu des anecdotes avec la Belgique et tout ça? Et je ne sais pas pourquoi, en 3 secondes et quart, je parle de Georges Moucheron. Et je lui dis, regarde, c'est cette personne-là, je suis sur la RTBF. C'est grâce à la RTBF, à Georges Moucheron, que je suis devenu l'homme que je suis. Que j'ai fait le métier que j'ai fait. Et puis il me dit, ah oui, comment ça? Puis là, je lui raconte l'histoire. On enregistre l'émission. Il était à peu près 3 heures au matin parce qu'il y avait le décalage horaire. Puis il me dit, j'ai une surprise pour toi, écoute. Et c'était Georges Moucheron. Puis il s'en souvenait de la rencontre. Puis moi, j'ai été très ému. Puis là, il dit, ben, après la rencontre, je te donne ses coordonnées.
Oh my God.
Ouais, puis aujourd'hui, on s'écrit une fois par semaine, ça fait un an et demi. Puis si, par exemple, je ne lui écris pas aux 2 semaines, il m'engueule pour dire « t'es fâché après moi ». Mais c'est ça, on a une belle amitié. C'est quelqu'un, je ne pensais pas que l'idole que j'avais en étant jeune devienne un ami. Quelqu'un qu'on se parle régulièrement et tout ça. Ça, c'est des beaux cadeaux dans la vie. C'est vraiment des très, très beaux cadeaux.
Puis dis-moi, Jean-Luc, je pense que les auditeurs sont à même de constater par eux-mêmes à quel point tu es un bon conteur. Tu as écrit plusieurs livres en très, très, très peu de temps. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas écrit plus tôt?
Ah, il y avait une panne complètement.
OK.
J'ai essayé bien des livres, mais ça sortait plus. Puis il y a eu mes autres romans ont beaucoup fonctionné. Puis j'ai comme fait un blackout complet. Ça sortait plus. Plus du tout. Puis, dans une soirée à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est 600 personnes. On est à une table de 10. Puis il y a un monsieur qui me dit, Doumont, t'as pas déjà écrit, toi? Je dis oui. Monsieur, le stylo est à sec. Il me dit, j'y crois pas. Et ce monsieur, je le soulignais, parce que j'en parle quelquefois, c'est André d'Orsonnance, des éditions Druide. Puis il me dit, viens me parler après, je vais te parler. Après la soirée, il est venu me parler, puis il m'a dit une phrase. Il dit, le jour que tu vas rencontrer la bonne histoire et les bons personnages, tu vas écrire. Mais il dit, je crois pas du tout à ta niaiserie. J'ai le stylo à sec. Il dit, pour moi, c'est de la foutaise. Il dit, dans le dictionnaire des excuses, c'est la page 324, je la connais par cœur. OK. Puis ça reste comme ça. Et il y a eu une histoire que moi, j'ai toujours suivie. Ça fait maintenant 12 ans. C'est Xavier Dupont de Ligonnès, un homme qui a tué sa famille en France, qui l'a enterré sur la galerie, puis qu'il est parti, on ne l'a pas encore retrouvé. Et il y a le journal Le Parisien qui fait la une. On l'a retrouvé. Donc là, moi, je me branche sur BFM TV avec un VPN, parce qu'on ne peut pas l'avoir, donc je me branche avec un VPN. Et je commence à regarder ça. Et la première photo qui sort, je me dis, soit il a beaucoup vieilli, soit il a beaucoup grossi, mais c'est pas lui. Je sais, ça ressemble pas au gars. Et 24 heures après, le monsieur qu'ils ont arrêté a demandé un test ADN et a révélé que ils ont arrêté la mauvaise personne. Donc, ça a été un flop total. Tous les médias avaient arrêté en France leur diffusion de programmes parce que pour eux, c'était la nouvelle de l'année.
Oh mon Dieu.
Ils ont arrêté la mauvaise personne. Et ils ont arrêté un monsieur qui venait de perdre sa mère, puis
Oh mon Dieu.
puis il partait en Irlande dans sa maison secondaire. Puis il venait de perdre sa mère, puis il a été en plein chagrin, là. Puis il ne comprend pas encore des années après pourquoi il s'est fait arrêter. Et je me suis dit comment cette histoire fonctionnerait aux États-Unis avec les CNN, les Fox News, les hélicoptères dans les airs et tout ça. Et ça a décollé là-dessus. Puis j'ai toujours écrit dans mes précédents romans des unitaires, puis avec un personnage clé. Et là, je me suis dit non, je m'en fous deux. Il y a eu Clark, un ancien journaliste, qui est un journaliste. Là, ça me rapprochait. Puis je me suis dit, c'est avec qui que j'aimerais faire enquête et tout ça. Puis avec qui j'avais le plus de fonds pour enquêter quand je faisais des articles pour aller chercher de l'info, c'était les avocats. Donc je me suis dit, on parle à peu près la même langue, donc ils vont se comprendre. Là, j'ai créé Clark et Clara. Et en 3 mois, le roman a été écrit. Je me souviens encore, en avril 2020, non, mi-mai 2020, il faut se rappeler qu'on était en pleine pandémie. Tout était fermé, on faisait du télétravail, on était en shutdown. Puis là, j'ai écrit un message imbécile sur Facebook. Je pense que j'ai terminé un roman. Et avec la photo de la pile de livres, de feuilles que j'avais imprimées. Une heure après, trois maisons d'édition m'ont contacté. On veut le lire. Et j'ai dit à mes amis autour de moi, j'envoie des nouvelles en 2044 parce que tout est fermé. Ça se peut pas. Et 3 semaines après, j'avais trois contrats d'édition. Puis là, je me suis dit, je pense qu'il se passe quelque chose. Puis
Donc
après,
un
Clark
point.
et Clara est arrivé, mais si tu me permets, je vais te raconter quelque chose. Moi, je pense que l'inspiration, oui, c'est du travail, mais je pense qu'on nous insuffle l'histoire. Moi, je ne suis pas tout seul là-dedans. Il y a quelque chose plus haut que nous qui nous envoie des ondes, qui nous envoie l'histoire. Puis je pense après qu'il faut savoir l'exploiter ou pas. Donc, si on est un bon récepteur ou pas. Donc, après, quand on nous donne l'histoire, ben, c'est à nous à la mettre sur papier, à transcender tout ça, là. Donc, ça, c'est cette partie-là que, écoute, 5 romans en 3 ans,
C'est très,
j'ai
très
des
rapide.
bonnes ondes réceptives.
Parce que c'est sûr que tu écrivais beaucoup. Là, l'État me faisait remarquer que tu sortais une vingtaine d'articles par semaine, tu avais l'habitude de rédiger, mais est-ce que, parce que je suis auteur moi-même, puis il y a un phénomène en effet où on a l'impression d'être guidé en effet par plus grand. Puis est-ce que ça t'arrive des fois de te relire puis de te dire, mon Dieu, j'ai écrit ça, moi?
Pas pendant l'écriture.
Après.
Après. Moi, une fois que le roman est terminé, je le laisse 5 jours comme ça. Puis là, je le relis comme un lecteur. Et bien souvent, ce qui m'arrive depuis les 3 derniers romans, au moment de la correction, là, il s'est passé, parce que moi, j'ai une mémoire TEFA. J'écris un roman, j'écris mon fin, j'ai oublié. J'ai oublié l'histoire. Parce que dans ma tête, je suis déjà dans la prochaine histoire. Là, actuellement, j'écris mon prochain roman, mais celui d'après, il est déjà dans un cahier là-bas. Donc, je sais déjà ce qui s'en vient. Je suis tout le temps dans les projets. Et c'est des fois, je le relis 2, 3 mois après. Puis, avec toute l'humilité que j'ai, je me dis, hey, c'est quand même un bon roman, ça. J'ai complètement oublié que c'est moi. J'ai complètement oublié. Puis, je me dis des fois, hey, j'ai écrit ça, moi. C'est ça.
Ce qui est particulier avec des romans, contrairement à des guides pratiques où là, on va donner des conseils, on va donner des outils, mais dans un roman, le personnage vit aussi à travers nous. On vit les émotions en même temps qu'on les écrit, mais on planifie pas nécessairement à l'avance l'émotion qui va se dérouler. On planifie pas nécessairement à l'avance comment le personnage va réagir. On le découvre en
Oui.
l'écrivant. Et tu as des personnages dans Pour un instant qui ont des caractères campés, très forts. Ta mère, c'est quelqu'un qui est marquant. C'est quelqu'un que, en lisant, tu dis, mon Dieu, elle est d'une force incroyable. Puis évidemment, ta fin, que je ne dévoilerai pas, mais ton épilogue est un témoignage extraordinaire envers ta mère. C'est une fin grandiose que tu nous as offert.
Oh, merci beaucoup. Écoute, il y a deux finales. Il y a la finale de l'histoire, l'épilogue de l'histoire de ma mère. Puis après, je suis revenu pour expliquer un peu la vérité. Puis cette partie-là, c'est celle qui m'a pris le plus de temps à écrire, à peu près. Ça m'a pris une bonne demi-journée.
Ça doit.
Puis en écrivant les derniers mots, j'ai fendu en 124. C'est même plus en deux, là. Puis j'ai appelé Lolita. Ça a été la première que j'ai appelée. Puis je pense que, écoute, j'ai pas filé pendant une semaine. Et je me suis dit, c'est quoi que j'ai écrit? Puis j'ai tenu jusqu'à la fin que ça reste dans le livre. Parce que c'était un message que je voulais faire à ma mère. Puis qu'elle me faisait aussi. Puis dans le roman, j'ai un dialogue avec ma mère. Et ce sont ces mots qu'elle m'a déjà dit que je reproduis. Donc, j'entendais la voix de ma mère, j'entendais ses intonations, j'entendais, parce que je n'ai pas le plus beau des rôles dans le livre. Même si je l'ai écrit, je ne me suis pas gardé le plus beau des rôles. Elle me descend assez souvent, si elle me rentre dedans, pas à peu près. Mais c'était ma mère, mais je n'avais aucune méchanceté. C'était tout le temps la bienveillance, mais avec son côté un truc de 12 tonnes qui te passe dessus. Moi, je me souviens de mon premier amour. Je vais te donner à peu près une image que je n'ai pas écrite dans le roman. Elle sait que je suis amoureux, mon premier amour et tout ça, mais ma mère, très possessive. Très. Une vraie Italienne.
Une
Et elle m'a
protectrice.
dit à un moment donné, tu vois le bout de la rue? Oui. Elle dit, si je la vois au bout de la rue, je la tue. J'ai dit, pardon, elle dit, je ne veux pas la voir. Elle a dit, elle fera un détour, elle fera ce qu'elle veut, mais elle dit, je ne veux pas la voir. Donc, elle était comme ça. C'était possessif. Puis, il n'y avait rien de méchant en elle. Elle protégeait son terrain. C'est ça.
Puis en même temps, avec ce qu'elle a vécu, c'est logique. Et c'est intéressant dans ton roman parce que on passe de tes discussions avec ta mère et puis on replonge dans ces années-là. On revit ce qu'elle a vécu, ce que Arthur, Georges, Anna, les autres ont vécu. Évidemment, sa propre mère, son propre père. On comprend bien aussi la différence de personnalité de chacun des personnages parce que, évidemment, le père de ta mère, donc ton grand-père,
Edmond.
Edmond, c'est un personnage en soi de son époque, un homme qui ne parle pas de ses émotions, qui ne démontre jamais qu'il est affecté, alors, et qui travaille extrêmement fort, c'est incroyable, pour essayer de subvenir aux besoins de sa famille, tout en sachant que c'est la mère qui tient l'épicerie, c'est la mère qui tient la famille, c'est la mère qui protège tout le monde, c'est la mère qui fait partie de la résistance.
C'est la chef du clan.
Totalement.
C'est la chef du clan, puis ma mère. Mon père était pareil. Moi, quand je voulais quelque chose, mon père disait, monte à ta mère. Il n'a pris aucune décision dans sa vie. Aucune. C'était chaque fois de monte à ta mère. Parce qu'elle prenait de la place,
Oui.
comme sa mère, ça prenait de la place. Puis les hommes, face à ça, fallait se lever tôt pour tenir tête. C'était incroyable. Moi, je me souviens quand elle a été un petit fait cocasse comme ça. Ma mère, quand elle était veuve, il y avait un voisin qui lui faisait de l'œil. Mais ma mère, elle s'en foutait royalement. Puis il continuait, il continuait, il continuait. Et à un moment donné, elle en a eu marre. Puis elle avait une bague qui montait un peu comme ça. Alors,
Ouais, une bague comme ça, là.
ouais, elle a retourné la bague, elle est sortie de la maison, elle a frappé sur l'épaule du monsieur et elle lui a donné un coup de poing. Le monsieur, il s'est écrasé par terre. Elle est rentrée dans la maison, elle m'a regardé, elle m'a dit, bon, c'est quoi qu'on fait pour souper? Je te jure, je lui dis ce que tu veux. Mais ma mère était comme ça. Fallait pas l'emmerder. C'était, elle avait un caractère, mais c'était aussi une personne que ce dont je ne suis plus capable depuis qu'elle est décédée, c'est les soupers interminables.
Ouais.
Et elle, ça commençait à 11 h le dimanche. Puis il y avait des longues tables, il pouvait avoir 20, 30, 40 personnes. Puis le dessert arrivait qui était 7 h, 8 h au soir.
Un dîner à l'italienne.
Un dîner à l'italienne, puis entre-temps, ça chante, ça danse, ça drague, ça fait tout. Puis tu as ça une fois, c'est correct. Deux, trois fois par mois, c'est ça, ça commence. Puis j'ai vécu ça des années, mais c'était quelqu'un qui faisait de la bouffe pour tout le monde. Elle ne demandait rien en retour, elle donnait de l'amour. C'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup faire de la bouffe aussi.
Puis c'est sûr que dans ton roman, quand on lit tout ce qu'elle fait, on ne peut pas s'empêcher de se dire, mon Dieu, une chance qu'elle a.
Ah
Une
oui.
chance que cette femme-là a existé.
Ah
Elle
oui.
est précieuse. Elle est précieuse non seulement dans ton histoire, mais elle a été précieuse pour l'ensemble de la famille. Je suis sûre qu'elle a dû te transmettre, avec tout son caractère et tout son amour, des choses intéressantes, au même titre que ta mère, avec tout ce qu'elle a traversé, c'est vraiment, faut vraiment lire le roman parce que la partie du troc, ça peut avoir l'air simple du troc, mais la façon que tu le racontes, il y a des bouts que j'ai lus deux fois pour être sûre que j'avais vraiment compris ce qu'elle était en train de faire. Et
Ouais.
tu dis, mon Dieu, c'est une enfant de 8 ans qui est en train de faire ça. Et
Ouais.
c'est une histoire vraie. Et tu fais, oh my God, ça forge un caractère. Puis tu disais tantôt, tu avais une timidité maladive, alors qu'aujourd'hui, on voit ta capacité à t'exprimer et on voit ta capacité à t'affirmer, à mettre des limites, à dire ce que tu penses. Il y a de ta mère en toi.
Ben, plus que j'ai, plus qu'il y a de l'italien qui ressort. Ça, c'est ça, c'est plus que j'ai eu, plus que ma mère. Il y a un truc qui m'a fait rire il n'y a pas longtemps. C'est un ami qui m'a dit ça en Belgique. Ma mère jardinait beaucoup. Écoute, depuis 2 ans, j'arrête pas de jardiner. Je suis en train de faire pousser pour la première fois de ma vie du carry. J'ai jamais fait ça de ma vie, c'est en train de pousser. Mais si je retrouve des trucs, puis j'ai les deux mains dans la terre, je suis relax quand même. Il y a des choses qui reviennent. Puis plus que j'ai eu, plus qu'il y a de l'italien, c'est comme ça. Je le vis complètement. Puis oui, je m'affirme. Même le caractère aussi est là, c'est ça, c'est la vieillesse.
Ben, puis je rajouterais aussi que quand on écrit un roman, et surtout quand c'est basé sur des faits réels, en l'écrivant, on nourrit en soi l'histoire et on consolide en soi aussi le caractère des personnages.
Oui.
Parce qu'ils nous habitent, là. J'ai écrit assez de livres dans ma vie, puis tu dois le vivre aussi. À un moment donné, là, il y a des scènes de la vie quotidienne où on entend nos personnages répondre aux gens. On sait ce que nos personnages feraient. Ils sont avec nous.
Ben, ils sont avec nous, puis moi j'entendais la voix de ma mère. J'entendais Arthur, parce que je l'ai bien connu, de comment il parlait, de comment il s'habillait, toujours avec son costume et sa cravate et tout ça, son chapeau, sa façon qu'il avait de s'enfuir, puis que je devais courir après et tout ça. Donc j'entendais tout ça. C'est vraiment des personnages qui nous habitent, puis en plus, c'est pas que des personnages. Je les ai vécus.
Oui.
Je les ai connus. Donc, c'est ça le plus drôle. C'est Clark et Clara, il y a un peu de moi. Des fois, je l'habille comme moi, Clark. Des fois, Clara, c'est un mélange de deux, trois personnes en même temps. Mais je ne les connais pas. Je ne peux pas dire Clark, c'est telle personne. Tandis que Victorine, c'est ma mère. C'est Edmond, c'était mon grand-père. Mais malgré que ma mère avait un caractère tonitruant. Et elle avait une fragilité incroyable. Lors du décès de mon père, c'est là qu'on voit qu'elle venait de tout perdre. Elle venait de tout perdre. Puis je le raconte dans le livre comment ça s'est passé. Puis même ma réaction, quelques années après, après que le docteur a annoncé le décès.
D'une façon particulière.
Ouais, puis j'ai gardé longtemps de la rancœur contre lui. Mais encore une fois, la bienveillance a fait son travail parce que quand j'ai été le confronter quand j'avais 18 ans, et c'était toujours une promesse que je m'étais faite, j'ai perdu mon père à 12 ans, puis mon père est rentré pour expliquer un peu aux personnes. Il est rentré pour des examens médicaux normaux. Ils ont vu un problème, il est resté à l'hôpital. En sortant, moi, de l'école, on a été voir, la chambre était vide. Ils ont dit, il y a eu un petit problème. Il a été aux soins intensifs. Il y a un docteur qui est sorti, il a dit, Madame, je m'excuse, mais votre mari est décédé. Puis ma mère s'est écroulée à côté de moi. Et j'ai trouvé cette réaction du docteur inhumaine. Et je me suis dit, à 18 ans, je vais aller dire ce que je pense. Et jour de mes 18 ans, j'ai été le voir. Et il s'en souvenait. Puis il m'a même dit, je t'attendais.
Oh!
Parce que des fois, on se croisait à l'hôpital, puis il voyait que j'avais envie de dire ce que je pense, là. Puis il m'a dit, je voulais t'expliquer quelque chose. Ça a été mon premier décès, et on sait pas, il n'y a pas d'école pour apprendre le décès de quelqu'un. Puis il dit, j'espère que tu me comprends. Puis là, c'est. Quand il y a eu de la bienveillance, c'est toute la rancœur que j'ai eue, mais j'ai eu de l'affection pour cet homme-là. Puis il y a eu un monsieur aussi qui a été très important, ça a été un prof, qui a été un peu mon second papa, qui est décédé il y a un an, puis qui m'a suivi comme ça. Puis tout ça, c'est toutes des personnes comme ça que j'ai rencontrées qui m'ont appris bien des choses dans la vie. Et ça, c'est. Je peux pas. Juste dire merci, là, parce que c'est complètement fabuleux.
Puis Jean-Luc, ça fait quoi? Ça fait au-dessus de 20 ans que tu es au Québec?
23.
Et là, tes livres voyagent,
Oui.
ils sont traduits,
Oui.
ils s'en vont en Europe, Ils se répandent de plus en plus
En
dans plusieurs langues.
Scandinavie. Ouais, Scandinavie et tout ça, ouais.
Après ce roman-là, quels sont les projets?
Écoute, il y a. Ben, tu sais, depuis 3 ans, j'ai vécu des choses professionnelles, physiques. Puis j'ai commencé la marche quotidienne depuis 3 ans. Là, changer de boulot, créer mon entreprise, l'écriture des romans et tout ça. Puis, il y a des personnes qui m'ont dit, je t'haïs. Parce que grâce à toi, j'ai recommencé à marcher, tout ça. On voit tes photos, puis je t'haïs. Puis je dis, c'est bien, on va aller marcher ensemble. Mais, puis là, c'est rendu que, ben, t'es devenu une inspiration et tout ça. Puis on m'a souvent demandé, faudrait que ce que tu as vécu devienne un livre. Puis au début, j'ai pris beaucoup de recul, puis j'ai dit non. Moi, voici mon histoire, voici tu sais, genre de bio à la con. Non, non merci, j'ai fait. Puis j'ai eu une idée. Je vais me cacher derrière un personnage. Donc, ça va être un roman initiatique où le personnage va vivre ce que j'ai vécu pendant les 3 dernières années. Avec tous ces changements et tout ça. Et ça va me permettre de, j'espère en tout cas, parce qu'on me le demande de plus en plus, de donner des conférences pour des jeunes, pour des adultes et tout ça. Donc ça va m'ouvrir des portes. Puis après, l'autre livre d'après, ça va être le retour de Clark et Clara qui va être annoncé.
Excellent.
Un retour au thriller. Ça me manque de tuer des personnes. C'est mon côté sadique.
Excellent. Je prends juste quelques instants pour regarder les commentaires. Évidemment, on a plusieurs personnes qui nous ont écrit, plusieurs qui découvrent ton roman
Oui.
aussi, qui découvrent le personnage qui était ta mère. C'est très intéressant. D'ailleurs, si vous voulez vous le procurer, il est dans toutes les librairies en ce moment. Vous pouvez évidemment le commander en ligne, mais vous allez le trouver un peu partout. Il est vraiment très facile. Vous pouvez l'avoir évidemment chez Béliveau Éditeur. Vous pouvez l'avoir sur le site de Jean-Luc directement aussi. Et vous pouvez demander, si vous voulez, vous pouvez demander à votre libraire s'il l'a pas, s'il en reste plus sur les tablettes parce que ça part comme des petits pains chauds. Donc, vous pouvez demander à votre libraire de vous le faire venir. Et à ce moment-là, vous allez le chercher directement à la librairie.
Ben, il
Comme
y a un
dit.
message, je sais pas si il y a un message qui m'a touché dernièrement. J'ai fait une émission de radio sur Unicité avec Sylvain Lachapelle et Sandra Paris. Puis tu sais, moi j'ai jamais, je m'attends toujours, c'est quoi les retours des lecteurs et tout ça. Je suis toujours ému de voir les retours. Puis Sandra Paris qui me connaît depuis à peu près quoi maintenant 15 ans. Qui a lu mes romans et tout ça. Et elle me dit, si il y a un livre qui doit être en film, ça doit être celui-là.
Ah oui.
Ça m'a jeté par terre. Ça m'a jeté par terre parce que je me suis dit, je ne l'avais pas vu comme ça. Puis Georges Moucheron, qui a lu aussi mes romans, parce que je lui ai envoyé, il m'a dit, Jean-Luc, j'ai l'impression des fois de regarder un 24 heures chrono, de voir des séries, de voir un film. Il dit c'est très cinématographique. Puis c'est pas voulu, c'est comme ça que j'écris.
Ah, c'est vraiment écrit comme un trailer. Ça se lit très, très, très rapidement. Les scènes bon, s'enchaînent à une vitesse folle. On savoure les personnages, on savoure les anecdotes, puis on n'a pas le temps de s'ennuyer. On décroche totalement. Et tu vois, on a Luna qui dit un excellent roman, coup de cœur assuré. Monsieur Fauzi, oui, qui nous dit que la discipline de ta mère, sa façon de vivre, crée en toi un reflet d'une manière personnalisée dans ton écriture.
Oh, merci beaucoup, c'est très
Mais
gentil.
c'est vraiment ça. C'est vraiment, ça, on voit les scènes de la façon que tu les écris. On voit la maison, on voit l'épicerie, on voit les chemins où ils s'en vont. On est capable de tout voir. C'est vraiment écrit de main de maître. Et tu utilises très bien les cinq sens. On comprend l'odeur, on comprend la vue, on comprend les sons. puis on comprend aussi ce qui se passe à l'intérieur d'eux. On comprend leur monde intérieur, on comprend la peur, on comprend la résilience aussi, on la ressent avec eux, on vit avec les personnages.
Puis tu sais, ce que je voulais aussi transmettre, c'était ce côté, ben, pas ésotérique, mais ce côté, chez nous, les morts ne meurent pas. Mm-hmm. Le corps n'est plus là, mais l'âme reste avec nous. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais chez les Italiens, par exemple, c'est mm-hmm. très bon. C'est l'âme reste parmi nous et tout ça. Pour expliquer, quand mon père est décédé, c'était la première fois que je vivais ça. Ma mère, pendant un mois, était habillée de noir. Mm-hmm. On n'a pas regardé la télévision pendant un mois, ni écouté la radio. C'était le deuil pendant
sérieux.
Un mois. C'était ouais. sérieux, non. C'est pas après deux jours, on passe à autre chose. Donc, c'était quelque chose de très italien, là.
Ouais.
Très fort. Puis, mon père, quand je l'ai vu décéder dans son corbillard, dans son cercueil, il avait sa tête penchée un peu. Et la façon, il n'avait pas sa tête droite, mais il avait ouais. sa tête penchée.
Inclinée.
Puis la façon qu'ils l'ont mis dans la terre, sa tête était penchée vers le jardin
oh.
de la maison parce que notre jardin donnait sur le cimetière directement en arrière de chez nous. Mm-hmm. Puis ma mère m'a toujours dit, bah, il est mort, puis il nous surveille encore. Mais j'ai trouvé ça d'une beauté incroyable. Puis quand j'allais dans le jardin, je regardais toujours, j'avais toujours l'axe d'où il était. Puis ça me faisait, je lui faisais des petits clins d'œil. Tu sais, il y avait un petit côté comme ça avec eux. Puis c'est ça qui, c'était ma mère aussi, elle était comme ça, mes parents. Puis j'ai, chez nous, les morts ne meurent pas. Mm-hmm. Je parle encore à ma mère aujourd'hui.
Mm-hmm. Une mère qui avait tout un caractère. Je me rappelle une anecdote dans ton roman. Je pense que c'est la première fois que le major se rend à son épicerie et qu'il lui fait comprendre qu'il n'a pas l'intention de payer,
ouais.
que le village n'existe plus et qu'ils vont prendre ce qu'ils veulent. Et tu as rajouté juste une phrase. Une phrase qui nous permet de comprendre que il a un peu regretté sa phrase, il a un peu regretté son approche. Parce que, juste justement dans son regard, sans aucune parole, elle lui a tenu tête.
Ouais.
Et on le lit, puis on se dit, oh my God! Parce qu'on ressent, évidemment, il n'est pas tout seul, le major, là, ils sont plusieurs à rentrer. On comprend bien qu'on est on est envahi par des nazis. On comprend bien qu'on est en situation de guerre. On comprend qu'ils décident qu'ils sont les rois et maîtres du village. Et donc, ils sont l'ennemi, ils sont les méchants du village. Elle est seule. Et ça ne l'empêche pas du tout de le fusiller du regard.
Exactement. Puis, ma mère a toujours dit, ne baisse jamais tes yeux devant quelqu'un. Elle me l'a toujours dit. Puis il y a aussi une phrase qu'elle disait quand elle voyait les Allemands, quand elle les appelait les Boches.
Oui.
Quand ils venaient vider l'épicerie, puis qu'ils partaient sans payer, elle se retournait sur ma mère, mm-hmm. puis elle disait, tu sais, ces inconnus vivent en roi chez moi.
Oui.
Puis quelques années plus tard, moi, je suis ici au Québec. Je tripe sur Harmonium, comme tout le monde. Et je suis en train de lire les paroles de Pour un instant. Mm-hmm. Et je tombe sur une phrase, « Des inconnus vivent en roi chez moi. » Et je me suis dit, « Merde, c'est la phrase de ma grand-mère. » Et directement, j'ai contacté la maison de production de Serge Fiori. Mm-hmm. où je lui ai expliqué l'histoire. Puis je me suis dit, regarde, au pire, ils vont me dire, ça ne m'intéresse pas, va-t'en. Trois jours après, la madame, elle m'écrit, puis elle me dit, Serge, accepte avec grand plaisir que tu prends 4 de ces titres mm-hmm. Pour tes prochains romans. Puis il est très touché de ça. puis c'est pour ça qu'il s'appelle Pour un instant. Je lui ai transmis le livre, puis j'ai reçu un message comme quoi qu'il a été très touché de l'histoire. Puis là, on doit s'organiser une rencontre prochainement parce qu'il veut me parler. Donc, j'espère que ça va arriver. Mais c'est toutes des histoires comme ça. Je pensais jamais le rencontrer. C'est incroyable. En plus, tous mes romans sont des titres de chansons. Donc, tu vois, c'est tout mon univers. On rentre dans un univers aussi. C'est ça que j'aime partager, en tout cas, avec les lecteurs et les lectrices.
Et je pense que les lecteurs et les lectrices apprécient ce partage-là. Du moins, et il faudrait que tu racontes l'anecdote du porte-clés.
Ah! Porte-clés, attends.
Celui est fait avec tes titres de livres.
Oui, oui. Ça, c'est une lectrice qui a fait, par exemple, un porte-clés avec « Je ne suis pas mort, je dors ». Elle a fait ça. Puis elle m'a envoyé la photo, elle m'a dit « J'ai fait une liste des romans que j'aime ». Puis elle a fait un porte-clés. Il y a un exemplaire, puis il y a « Je ne suis pas mort, je dors » là-dessus. Ça m'a touché incroyablement. Tu sais, quand j'ai sorti « S'enfuir » et après, il y a Adajad Bracelet. La fille que je connais, qui est une amie, elle me dit « Jean-Luc, très bon roman, mais je vois un bijou. » Et là, je pensais qu'elle parlait du roman. Et elle me dit « Non, ta couverture, c'est les couleurs d'un bijou. » Et elle dit « Je te montre en photo. » Et elle montre un bracelet avec les couleurs du roman. Puis elle dit « Je voudrais le commercialiser. » Et moi, je lui dis « Garde, tu vas en vendre une dizaine, fais-le. » Puis elle dit « Je voudrais qu'il s'appelle S'enfuir. » Et après, j'ai dit « Non, il va s'appeler Doumont pour un petit clin d'œil à mon père. » Puis elle me dit « OK. » Et elle s'en est vendue en 3 mois, je pense, 500. C'est ce bracelet-là. C'est celui-là. Puis les enfants ont demandé, ils étaient jaloux. Donc maintenant, il y a des petits Doumont. Donc, je reçois des photos d'enfants qui portent mon bracelet. C'est incroyable. J'ai même, attends, je vais te le montrer. Avec le deuxième livre, Je ne suis pas mort, je dors. Il y a un monsieur qui a créé le stylo Doumont avec les couleurs du livre.
Excellent.
Donc, j'ai rien demandé. C'est des cadeaux comme ça qui arrivent. C'est complètement incroyable.
Et c'est toujours comme ça, parce que c'est toujours rafraîchissant de voir ta surprise et ton immense gratitude devant tout ce que les lecteurs font. Je pense entre autres à la dame qui a fait la grande affiche.
Oui.
C'est magnifique.
Écoute, même moi, je n'ai pas ça chez moi. Elle a fait une grande affiche avec la couverture du roman. Je me souviens, mon plus jeune lecteur, Zéphir, il a 8 ans. Je l'ai vu au Salon du Livre de Québec. Il y avait Vincent Fournier à côté de moi, que je salue. Puis on voit arriver ce bonhomme-là. Puis moi, je n'écris pas pour les enfants. Tu sais, mes thrillers, là, il y a des scènes de meurtre, des scènes osées, il y a du sang qui jette et tout ça. Là.
C'est pour adultes.
C'est pour adultes. Le mot, l'enfant de 8 ans a tout lu. Puis là, il me parle de mes livres. Il me dit au combien qu'il m'aime. Puis il me le dit. Là, Vincent, je le vois, puis il a la petite larme à l'œil là, qui sort. Puis il me dit, c'est quoi qui se passe? Il dit, on est-tu dans quelle dimension? Là? Puis le petit, il me serre dans ses bras. Il a fait 2 heures de route pour venir me voir. Moi, je fends douce devant lui, c'est incroyable. Je le prends dans mes bras, je l'assois dans ma chaise. Il ne voulait pas, mais je dis, gars, viens t'asseoir. Mais c'est d'une beauté incroyable. Moi, je ne m'attends pas à ça. Puis j'ai chaque fois de la gratitude parce que sans les lecteurs et les lectrices, je ne suis rien. Si je peux écrire, c'est grâce à eux. C'est grâce à elles. Puis quand je vois qu'ils adoptent mes romans, qu'ils adoptent mes personnages, Clark et Cara, j'ai toujours pensé que ça ferait un livre, puis merci, au revoir. Il y en a 3, le 4e, il s'en vient. Victorine, de voir les réactions, j'ai comme l'impression qu'elle va peut-être revenir. Peut-être à un moment donné qu'elle va revenir quelque part. Quand j'ai sorti le lac majeur au profit de la
Oui.
Fondation d'Hôtel-Dieu d'Allemagne, il y a eu un nouveau duo que j'ai mis en place d'enquêtrices des femmes. Je ne pensais pas que ça allait, que le duo allait fonctionner. Sur papier, c'était beau, mais je sais est-ce qu'ils vont autant adorer que Clark et Clara. Ils l'ont adopté. Donc, c'est chaque fois qu'ils sont adoptés. Moi, ça me bouleverse. Incroyable.
Et je pense à ta une lectrice, entre autres, qui est en train de parler de ton livre à tout le monde dans la ville où elle est et qui
Oui,
t'a
ça, c'est
invité.
Nadia.
Oui.
Ça, c'est Nadia Galland à Bécomo, que j'ai saluée d'ailleurs au tout début du roman. Elle se promène à Bécomo en train de dire c'est moi qui est dans le livre. Puis elle a organisé à Bécomo, elle était frue. On va dire la vraie histoire. Mon livre est sorti trop tard pour que je sois invité au Salon du
Oui.
livre de cette île. Donc, elle était frue que je sois pas là. Elle m'a écrit sur Facebook, elle m'a dit, si j'organise quelque chose à Bécomo, est-ce que tu viens? Et j'ai dit, pardon, elle dit, je t'organise tout. Là, elle a pris contact avec une librairie, avec la bibliothèque, les médias. Elle m'a organisé un truc de fou. Je suis monté à Bécomo, puis tout était fait. Il y a même eu un souper après. Puis Nadia, je l'adore. Puis d'ailleurs, je lui ai offert un cadeau bien spécial. C'est le cahier de Pour un instant, dans lequel ben, j'ai écrit tous les débuts de chapitre et tout ça. Maintenant, ça lui appartient, c'est à elle. Quand je lui ai donné ça, le lendemain, elle m'a dit qu'elle travaille chez Walmart. Puis elle le montrait à tout le monde chez Walmart. Puis moi, quand je suis arrivé à Bécomo, il me restait un petit quart d'heure. J'avais un quart d'heure d'avance. J'ai été chez Walmart. Puis je me suis arrivé devant elle. Écoute, la moitié du magasin savait que j'étais là. Elle a crié partout. Mais c'est un amour incroyable. Puis tu vois, c'est un attachement avec les lectrices et les lecteurs. C'est moi aussi, je me fais adopter par eux. C'est moi, quand j'étais au Salon du livre de Québec, j'avais trois séances de signature. Je m'attendais à rien. Puis j'en ai eu sept en tout. Ça faisait la file, les photos. Même que Prolo, le distributeur, ils ont réaménagé la place pour ajouter une table pour que je fasse plus de séances de signature. Après mon départ dimanche, il y avait encore des gens qui étaient là. Il y a une madame qui est partie de Sainte-Terre à 3 h au matin pour venir me voir. Puis elle était la première dans la file d'attente le samedi matin. Si, il y a une madame au Salon du livre de Drummondville. Cette madame-là, elle a quel âge? Une 80 ans, 80 ans à peu près. Elle marche avec une marchette, là. Puis je l'ai dit. Puis j'ai dit, ça va, madame? Là, elle me prend dans ses bras, elle dit, c'est toi que je suis venu voir. Écoute, il y a une madame au Salon du livre de Québec, elle sort tous mes livres pour me les signer. Puis ça, c'est le truc le plus cocasse. Elle monte son bras, puis elle dessine. J'ai dessiné quoi? Mon bras? Non. Elle dit, tu comprends pas. On est samedi, il est 2 h 30 de l'après-midi. À 5 h, j'ai un rendez-vous chez le tatoueur. Je me fais tatouer ta signature.
Oh my God.
Et là, je lui dis, tu sais, j'ai tout sorti le livre des excuses. Tu sais, à un moment donné, tu vas avoir 80 ans, ce sera plus beau. Signe, elle m'a dit. J'ai dit, tu sais, t'as un chum. Je passe. Sûr qu'il va être content qu'il y ait une autre signature. J'ai signé. Puis elle m'a envoyé une photo. Elle a sa signature sur son bras. Puis c'est ma signature. C'est incroyable.
On se croirait dans un film hollywoodien.
Ah non, mais c'est un amour incroyable que j'ai avec les lecteurs, les lectrices. C'est complètement fou. C'est une fusion. C'est incroyable. Puis. Écoute, hier, c'est quand lundi, c'est il y a 2 jours. Je m'y attendais pas. Ville d'Allemagne, qui me fait une motion de félicitations. D'ailleurs, salut la mairesse Sylvie Beaumont, puis la conseillère Bianca Villeneuve, qui a été l'instigatrice de cette motion-là pour mes ventes de livres, pour les traductions et aussi parce que le roman Le Lac Majeur, que j'ai pris au profit gratuitement pour acheter du matériel médical pour l'hôpital d'Alma, a permis d'acheter un genre d'encéphalogramme pour le cerveau. Qui permet de regarder l'activité cérébrale de façon numérique pour savoir si le cerveau est en arrêt de vie ou s'il y a encore de l'espoir d'une survie beaucoup plus précise. Et ça va sauver à peu près 50 personnes par année.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup. Donc, ils ont fait une motion de félicitations. Je m'y attendais pas, à ces trucs-là. C'est moi, j'ai écrit, mais pas pour paraître. Pas pour recevoir des prix. D'ailleurs, je suis contre les prix. Je suis contre les prix. Pour moi, le plus beau des prix, c'est quand les lecteurs et les lectrices achètent mon livre. Moi, les prix littéraires, si j'en reçois un jour, je vais l'accepter, mais je cours pas après comme certains autres. C'est pas vers ça que je vais. Parce que pour moi, on devrait donner des prix à des docteurs qui sauvent des vies. On devrait donner des. Aux ceux qui aident vraiment les gens, pas aux gens qui écrivent, ni aux chanteurs, ni tout ça. T'sais, on ne sauve pas des vies. On donne du bonheur, oui, mais on ne sauve pas des vies. Ça, c'est mon côté sagesse là, qui parle. Mais moi, ce serait plus aux docteurs qu'il faudrait faire des galas pour les remercier. Mais t'sais, de recevoir une motion de félicitations, t'sais, ça me fait chaud au cœur. Mais je me tiens loin de tous ces prix-là. C'est très bon pour mon ego.
Excellent. Ben, merci beaucoup, Jean-Luc. Je rappelle à nos auditeurs le titre de ton roman, ton excellent roman, Pour un
Merci.
instant, roman historique, un roman historique bâti avec énormément de cœur, avec énormément de mystère aussi. C'est un plaisir à lire. Vous pouvez le trouver en librairie, vous pouvez le trouver en ligne aussi. Vous pouvez le trouver sur ton site, peut-être donner le titre de ton
Oui,
site.
jeanlucdoumont.com.
Et on peut te retrouver sur les réseaux sociaux.
Oui, Jean-Luc Dumont, puis Facebook, Instagram, tout. Jean-Luc Dumont auteur sur Facebook, Jean-Luc Dumont perso, mon personnel sur Facebook. Il y a du Instagram, du LinkedIn, mais je ne suis pas sur TikTok. Oui, je suis sur TikTok, mais pas actif.
T'es partout. T'es
Ah, je suis
partout.
partout, je suis partout.
Excellent. Mais merci beaucoup. On vous rappelle évidemment que si vous
Merci.
voulez réécouter cette entrevue-là, elle sera disponible dès demain sur les différentes plateformes qu'on a nommées tout à l'heure pour des podcasts. Évidemment, je vous encourage à vous procurer ce roman-là, à l'offrir en cadeau. Ça s'offre merveilleusement bien, ça se lit merveilleusement bien. Et je te souhaite aussi qu'un jour, ça donne un film. Et
Écoute.
avec toutes les aventures qui te sont parvenues, qui te sont arrivées, après la série Castle, pourquoi pas la série Doumont? Moi, je suis sûre qu'on aurait de quoi alimenter plusieurs saisons parce qu'il t'arrive toujours plein de choses extraordinaires.
Ben écoute, je lance ça dans l'univers, tu sais, je demande, tu sais, si ça doit arriver, ça doit arriver.
Exactement.
C'est ça, c'est moi je provoque rien, si ça doit arriver. L'univers va envoyer des messages, puis ça va faire que ça va se connecter à un moment donné, puis que ça va se réaliser. C'est comme ça que je prends la vie depuis 3 ans. Je provoque plus rien, puis ça arrive.
Et peut-être pour conclure, nous rappeler tes trois mots d'ordre aujourd'hui
Mes 3 mots d'ordre.
qui composent ta signature.
Force, sagesse, courage. C'est les. Mais c'est ça, c'est le drapeau belge, noir, jaune, rouge. Le noir, c'est la force, le jaune, la sagesse, le rouge, c'est le courage. Et c'est le logo aussi de mon entreprise, Doumont 360. Il y a le noir, le jaune et le rouge. Et au début, je cherchais quelque chose. Puis, c'est un ami qui m'a dit, ben, tu sais, le drapeau belge, puis je ne savais pas du tout, c'est force, sagesse, courage. Et il dit, ça te correspond. Et j'ai fait, OK, puis je l'ai adopté. Puis c'est pour ça qu'il y a un bracelet qui me suit, puis que c'est, oui, c'est mon entreprise, mais c'est aussi le drapeau de la Belgique. mes racines qui sont là.
Et c'est très intéressant parce que c'est exactement les trois qualificatifs que j'aurais donné à Christina, ta grand-mère que tu décris dans Pour un instant.
Oui.
C'est les trois qualificatifs que je donnerais aussi à ta mère, Victorine.
Oui.
Donc, tu es
Et j'aurais rajouté grande gueule, mais bon. Mais bon, c'est...
Ça aussi, c'est de famille.
Oui. Bon, on s'assume très bien, tu sais, dans la vie, on s'assume très bien.
Ah, exactement.
On s'assume, puis, tu sais, on nous aime avec nos qualités, nos défauts. Mais c'est ça. On dit les choses.
Excellent. Alors, Jean-Luc, je te souhaite une merveilleuse soirée.
Bien, toi aussi, merci beaucoup pour ce rendez-vous. Me voir dans l'autre côté, c'est un peu bizarre, mais dans 15 jours, je reviens de l'autre côté. Je vais poser des questions. je ne sais pas c'est qui le prochain invité. Est-ce que tu le sais? Attends, j'ai regardé.
C'est une bonne question. C'est pas Jean-Guy par hasard?
C'est Jean-Guy.
C'est ça, hein?
Jean-Guy Rochard. Donc, on va se retrouver le 7, 14, 21 juin avec Jean-Guy Rochard dès 20h sur YouTube, Facebook, LinkedIn pour le Béliveau Rencontre.
Avec un livre qui va traiter cette fois-ci de l'impact des mots qui sont dits et aussi des non-dits. Un livre extraordinaire. Il faut rappeler aussi que M. Rochefort est un psychologue. Donc, un livre très, très bien écrit, très impactant et qui va aider énormément de gens.
Soyez à l'écoute. On va beaucoup apprendre avec Jean-Guy.
Excellent. Merci beaucoup, Jean-Luc.
Merci beaucoup, Annabelle. Merci beaucoup. Puis merci à tout le monde.
Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.
Bonne soirée.